ici Europe numéro 1.
Voici le cinquième épisode de ma série sur l'année 1955. Au menu, la disparition d'une première dame, le franchissement du mur du son, des enfants héroïques et le premier Noël d'Europe numéro 1.
1955, on de la raconte sur Europe 1.
Le 12 novembre 1955, l'Élysée annonce le décès de Madame Germaine Coty, l'épouse du président de la République, René Coty, qui a succombé à une crise cardiaque à l'âge de 69 ans.
Madame Coty est morte. Cette nouvelle brutale a jeté la consternation dans tous les cœurs. On avait encore présent à l'esprit l'image d'une femme simple et un peu surprise qui recevait de Madame Auriol la responsabilité du palais de l'Élysée. Puis, on l'avait vu très vite se donner avec tout son cœur à ce rôle de première dame de France. On l'avait surprise à Vizille, au milieu des enfants. Et toujours, elle voulut être, avec gentillesse, la consolatrice des affligés. Grand-mère, c'est vers les enfants qu'elle revenait toujours avec douceur, avec une tendre obstination. Elle recevait à l'Élysée une délégation de jeunes Alsaciennes quand elle ressentit les premières atteintes du mal qui allait l'emporter. À Rambouillet, les marques de sympathie n'ont cessé d'être prodiguées à M. Coty. La France pleure Mme Coty, qui sut incarner les plus rares vertus, le naturel et la simplicité.
C'est la première fois que la femme d'un président de la République meurt en plein mandat. Les Français sont stupéfaits et attristés comme cette dame.
Je n'ai pas pu voir le président, mais j'ai vu son entourage, le général Ganneval et M. Friol, et j'ai exprimé mon profond chagrin, qui est vraiment aussi celui de toute une population qui aimait tellement Mme Coty pour sa simplicité et sa gentillesse avec tout le monde. Je l'ai vue jeudi après-midi au Salon de l'Enfance, où nous étions avec Mme Menderville et quelques dames à l'accueillir à différents stands. Et elle était venue pour la rose de la paix également, que des enfants lui ont offert. C'est là où elle était un peu fatiguée, mais il faut dire que tout le monde l'était, étant donné qu'il faisait très chaud et qu'il y avait un nombre considérable de personnes qui l'entouraient. Elle attirait toutes les mamans et toutes les familles et les enfants. On sentait que c'était vraiment la grand-mère et la mère, et elle était appréciée pour toutes ses qualités de grand-mère et de mère admirable.
Alors, pour rendre un dernier hommage à cette femme admirable, les Français se pressent devant l'Élysée. Un journaliste d'Europe numéro 1 est là pour recueillir tous ces témoignages d'affection.
Dimanche de recueillement aujourd'hui à l'Élysée. Ce matin, depuis 9h, une foule de Parisiens, des gens de toutes conditions, viennent ici, gravissent les quelques marches du perron de l'Élysée devant lequel je me trouve en ce moment, et pénètrent à l'intérieur du hall, où derrière une table, un garde républicain présente à chacun des visiteurs le livre sur lequel ceux-ci viennent signer leur nom, rendant ainsi un dernier hommage à Madame René Coty. Je peux vous demander, Madame...
Je suis directrice d'école, oui.
Ah bon, et vous avez connu Madame Coty, j'ai eu l'occasion de la rencontrer.
Eh bien, justement, au Noël des enfants de la ville de Paris, et elle a été tellement gentille avec les enfants et tellement cordiale avec nous qui les accompagnons que j'ai tenu à venir lui rendre un dernier et modeste hommage. En souvenir des Noëls qu'elle a offerts aux enfants des écoles de la ville de Paris.
Une dame sort maintenant avec un enfant. Madame, vous êtes une Parisienne ?
Oui, je suis Parisienne.
Et pourquoi avez-vous tenu à venir ce matin ici, Madame ?
Et parce que Madame Coty était, je crois, aimait tout le monde.
Mêlée à cette foule anonyme, un personnage vient d'arriver, c'est Monsieur Paul Boncour. Monsieur le Président, vous venez de rendre un dernier hommage.
Comment ?
Vous venez de rendre un dernier hommage à Madame René Coty.
Eh oui, bien sûr, je suis tellement affecté par cette mort qui frappe une famille si unie, ça doit être terrible pour le Président.
Est-ce que je peux vous demander, mademoiselle, vous avez quel âge ?
11 ans.
Et vous avez tenu à venir ce matin à l'Élysée ?
Oui.
Et est-ce que vous l'aviez déjà rencontrée, Madame Coty ?
Oui, au Salon de l'Enfance.
Ah bon ? Et alors, vous aviez conservé un bon souvenir, enfin ?
Oui.
Oui ? Et toi aussi, petite fille, comment tu t'appelles ?
Annie Béguinier.
Tu as quel âge ?
10 ans.
Et tu avais vu Madame Coty aussi ?
Non.
Et les deux petites filles repartent en faisant crisser les graviers de la cour de l'Élysée.
Les obsèques de Madame Coty ont lieu lundi qui suit en l'église de la Madeleine à Paris. Et là encore, Beaucoup de Parisiens sont là.
Des bruits de pas. Encore des bruits de pas. Ils furent des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers aujourd'hui. Toute la journée, le long des grilles, la foule s'était massée. Ils ont attendu des heures entières, 3 heures, 4 heures parfois, avant de pouvoir pénétrer dans l'église. Ils ont attendu, sans dire un mot. Mais pas un seul ne s'est lassé. Pas un seul n'a quitté cette file d'attente dans laquelle il avait tenu à se trouver. C'est une très grande famille qui entoure Madame René Coty. C'est la grande famille des Parisiens. Sans distinction de condition sociale, près de moi, j'aperçois une dame en manteau de vison. Et un peu plus loin, une pauvre vieille dame, très sobrement, plus que sobrement vêtue, aux chaussures éculées, à la mise bien simple, qui s'est coiffée d'un fichu elle aussi, et qui toussait tout à l'heure lorsqu'elle était dehors, parce qu'elle avait froid tout simplement. En passant devant le cercueil, les gens se signent, s'arrêtent quelques secondes, puis repartent. Mais beaucoup d'entre eux, un peu plus loin dans l'église, vont s'agenouiller sur des prie-dieu. Ce pas, ce simple pas, c'est celui d'une très vieille dame, d'une bonne vieille grand-mère, qui traîne un peu les pieds, accablée par le poids des ans. Ce bruit, c'est l'hommage de tout un peuple vers une grande dame qu'il a trop peu connue et pourtant beaucoup aimée.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui, mais à Paname peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
Sous le ciel de Paris d'Edith Piaf en 1955.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 4 mars 1955, un avion de guerre français s'apprête à passer le mur du son.
Tandis que je vous parle, le commandant Boudier est en vol à bord du Mystère 4B1 et il est en train de tenter de passer pour la 6e fois dans la journée, car il l'a réalisé 4 fois ce matin, le mur du son à l'horizontale. Sur la piste, comme je vous le disais tout à l'heure, une voiture radio, quelques officiels, personne n'a le droit d'approcher ce prototype qui est vraiment unique en son genre, tant en France qu'en Europe.
C'est le pilote Paul Boudier qui est aux commandes du Super Mystère B101.
Le commandant Boudier va se poser dans quelques instants. Je vois son appareil qui est environ à 1200 mètres d'altitude et qui prépare son approche en faisant un virage. L'appareil s'approche de nous. C'est un avion qui ressemble au familier, au classique Mister 4, avec cette seule différence que son nez est très affiné pour permettre une plus grande visibilité au pilote. Vous entendez les tuyères du Super Mister 4B1.
Ce Boudier a été recruté par Marcel Dassault. Et ce jour-là, c'est son fils, Serge, qui suit avec attention la prouesse du pilote.
Le Mister 4B1 vient de s'immobiliser à proximité de nous. Le cockpit s'ouvre, on approche l'échelle, le commandant Boudier descend. Lorsqu'il arrive au dernier échelon, Monsieur Serge Dassault, fils du constructeur, se jette à son cou, l'embrasse et je vais essayer maintenant de les approcher l'un et l'autre. Commandant, est-ce que vous avez quelque chose à nous apprendre ?
Eh bien écoutez, j'ai bien sûr quelque chose à apprendre, en ce sens que pour la première fois, un avion de guerre français a atteint et dépassé la vitesse du son en vol horizontal. C'est la première fois que cela soit non seulement en France, mais même en Europe. Ceci est la chose nouvelle. À vous apprendre d'autres, il n'y a rien, car cet avion est vraiment une pure merveille. Et à chacun des 5 vols que j'ai effectués jusqu'à présent, chaque fois que je me posais, je disais aux ingénieurs et aux mécaniciens qui étaient là, rien à signaler, tout va bien.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, mon commandant, ce que représente pour vous le mur du son ?
Le mur du son est une vue de l'esprit maintenant. C'est un vieux souvenir qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais maintenant, sur un avion comme ça, c'est absolument quelque chose de dépassé. Peut-être trouverons-nous plus tard et plus avant dans les vitesses supersoniques de nouveaux phénomènes qui mériteront des études et qui amèneront des problèmes à résoudre. Mais pour l'instant, maintenant, le mur du son n'existe plus.
2 mois plus tard, en mai 1955, les Dassault sont présents au salon de l'aéronautique du Bourget. Et Serge Dassault, là encore, ne cache pas sa fierté.
Nous attendons toujours les 12 mystères 4A qui, en formation, vont passer le mur du son. Et M. Serge Dassault est auprès de nous, a bien voulu s'approcher de notre micro. M. Serge Dassault, êtes-vous content de l'organisation de ce meeting ?
Bien, ce meeting a été organisé d'une façon absolument remarquable. Nous avons vu de très belles évolutions de divers avions, en particulier celle du colonel Sunderman sur le Fokker, qui était absolument ahurissante. Le meeting se poursuit. Le SO 9000 Trident a décollé avec sa fusée. Nous le voyons disparaître dans le lointain d'une façon impressionnante. Je suis aussi heureux de vous annoncer que le Mystère 4N a atterri tout à l'heure à Nice avec le général Corneille Molinier, ayant mis 39 minutes pour rejoindre le Bourget à Nice d'un seul coup d'aile.
Bien, je suis content d'apprendre cette nouvelle parce que le général que nous avons interviewé à son départ avait peur de n'être pas à temps à Nice pour voter. Enfin, je serais content de savoir qu'il est bien arrivé. Merci beaucoup, Monsieur Serge Dassault.
Et bien entendu, le pilote qui a franchi le mur du son, Boudier, est là. Et le journaliste d'Europe numéro 1 lui pose la question. Qu'est-ce qu'on ressent quand on franchit le mur du son ?
Commandant,
ouais, le commandant Carpentier,
mettez-vous d'accord.
Le commandant Carpentier du CEV a déjà, je crois, résumé parfaitement la question en disant si ça marche bien, eh bien on ressent absolument rien. C'est comme si on marchait à Mach 0,5. Si on ressent quelque chose, c'est que ça commence à aller un peu moins bien. Donc un avion qui passe normalement le mur du son à Mach 1, ben, le pilote ne ressent absolument rien.
Oui, vous vous dites ça, mais enfin...
Non, absolument.
Absolument
c'est vrai.
Rien.
C'est vrai.
Mais il n'y a pas de bruit. Le colonel Rozanov m'avait dit qu'une fois, il avait essayé d'enlever son casque et qu'il avait entendu les chutes du Niagara sur l'appareil.
Paul Boudier dit que sur le Super Mystère, il entend effectivement une sorte de vibration immédiatement au passage de Mach 1.
Ce n'est pas exactement une vibration, c'est un petit frissonnement de l'air juste au moment où on passe Mach 1. Mais vraiment, pour le savoir, il faut faire attention et le passer très doucement, ce qui n'est possible que depuis très peu de temps avec les avions les tout derniers nés.
Oui, c'est une façon de parler. D'ailleurs, passer tout doucement le mur du son, n'est-ce pas ?
Ah oui, mais comme disait très bien Rozanov, en le dégustant.
C'est ça. Eh bien, je vous remercie, messieurs. Je pense que vous savez à quel point le public ici vous fait fête aujourd'hui et est heureux de voir que tout s'est bien passé, que vos évolutions ont été aussi réussies qu'il était permis avec les conditions atmosphériques de ce jour.
Cette année-là, un autre pilote, Jean-Baptiste Sally, veut rendre hommage à Louis Blériot, le premier homme à avoir traversé la Manche en avion. Et pour l'occasion, il a remis en état de marche un vieil avion de la marque. En ce mois de juillet 55, il est prêt à s'élancer.
Une grande activité règne ce matin sur le petit terrain de la Ferté-Allée, où M. Salis achève de charger son Blériot 13 dans une remorque qu'il a spécialement construite pour cet usage. M. Salis, qui va tenter dimanche, 46e anniversaire de la traversée de la Manche par Louis Blériot, de rééditer cet exploit, n'est ni un excentrique ni un personnage aventureux. Il fut breveté pilote en 1912, effectua pendant la guerre de 1914-1918 plus de 1900 heures de vol, ce qui constitue déjà un exploit, puis devint pilote d'essai. Il a en 30 ans d'aviation effectué environ 12 000 heures de vol. Son dernier emploi, doubler les vedettes en vol d'acrobatie dans les films d'aviation.
Cette fois-ci, pas d'acrobatie en vue et pas non plus de durée limite pour boucler le vol. Salis n'a qu'un seul objectif, arriver à bon port.
Bah écoutez, j'espère que si le temps le permet, réaliser la traversée, c'est tout ce que je peux vous dire maintenant. Vous avez cet avion que vous avez construit vous-même, et est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous l'avez, vous le connaissez suffisamment pour être sûr de ce que vous allez faire?
Bien, c'est-à-dire le Blériot, j'ai déjà été breveté militaire sur Blériot, sur ce type d'appareil. Et j'ai fait quelques vols avec déjà qui ont été très réussis, je compte que ça pourra très bien marcher.
Vous pensez mettre combien de temps pour franchir le détroit de la Manche?
Ben, vous savez, ça demande toujours à peu près une demi-heure. Le Blériot est un appareil qui ne dépasse pas le 70-75 à l'heure. Alors, si j'ai un petit vent qui me favorise, je peux aller plus vite. Sinon, ça va demander certainement une bonne demi-heure, si ce n'est pas 40 minutes.
Vous allez voler à quelle altitude?
Ben, je ne sais pas au juste. Ce que je pourrais monter, peut-être 500 mètres, peut-être 300, peut-être 200, enfin, selon ce que mon moteur voudra bien me donner.
Eh bien, une dernière question. Monsieur Salis, combien de temps avez-vous mis pour construire votre appareil?
J'ai mis à peu près 6 mois. J'ai fait ça l'hiver à temps perdu parce que j'en ai déjà construit un pour le ministère de l'air, n'est-ce pas, pour le musée de l'air, c'est-à-dire. Et en ayant les plans, n'est-ce pas, de ce premier appareil, ça m'a permis de faire un relevé, n'est-ce pas, et donc essayer de préparer les pièces pour en faire un deuxième.
Et ce 22 juillet 1955, Jean-Baptiste Salis réussit sa traversée de la Manche. Il réitérera son exploit 4 ans plus tard. Après l'avion, maintenant l'hélicoptère. Cette fois-ci, c'est au tour d'un autre pilote de tenter de battre le record d'altitude. Son nom, Jean Boulet. Un journaliste d'Europe numéro 1 est présent pour commenter l'exploit.
Le décollage s'est effectué dans les meilleures conditions possibles. Immédiatement, l'alouette se met à monter. L'ascension se fait à la vitesse de 10 mètres secondes environ.
Le vent est assez violent et l'alouette ne monte pas à la verticale, mais louvoie comme un voilier dans le vent. Le pilote est parti depuis maintenant 5 minutes et l'hélicoptère n'est plus qu'un tout petit point noir là-haut dans le ciel que nous perdons de vue très rapidement d'ailleurs. L'oxygène maintenant. Et qui répond après?
Hein?
Qui répond, qui l'a mis?
L'oxygène.
Oui, qui disent l'oxygène. Vous lui dites de mettre l'oxygène sur débit forcé et qui nous répond qu'il l'a mis, qu'il l'a bien mis.
À 5005!
Oh, ouais, il peut le mettre maintenant, il en aura assez comme ça.
D'une petite baraque en planche située sous les feuillages et en bordure de l'aérodrome, on contrôle la tentative de Jean Boulet. On reçoit là ses messages radio et on lui donne des consignes. Tout le monde est anxieux naturellement. Les derniers renseignements donnent 7000 mètres. Nous sommes déjà tout près du record. Monsieur Marchetti, vous qui connaissez bien cet hélicoptère pour l'avoir conçu, est-ce que Jean Boulet, je parle volontairement doucement, est-ce que Jean Boulet va limiter sa tentative à 8000 ou essaiera-t-il de monter le plus haut possible?
Il essaiera de monter le plus haut possible, bien entendu.
Il ne s'est pas fixé de limite au départ?
Non, il ne s'est pas fixé de limite au départ. On lui a indiqué l'ordre de grandeur, c'est-à-dire de dépasser les 8000, et il va essayer de son mieux d'aller au-delà, si c'est possible.
Il est 15h25. L'altitude de 7650 mètres a été atteinte. Et le plus dur presque reste à faire. Les derniers mètres sont tellement durs à gagner. À 7650 mètres d'altitude, Jean Boulet vient de signaler par radio que la température extérieure est de moins 28 degrés. 15h30, Jean Boulet est à 7800 mètres.
À l'heure actuelle, il y a moins 28 degrés à cette altitude, alors que normalement, on devrait rencontrer moins 35.
L'altitude de 8000 mètres est atteinte à 15h37.
Exactement.
39. Merci.
Ok, bien compris. Je commence à descendre.
Il est monté à 8050 mètres, ce qui fait avec les corrections 8350 mètres environ, sous réserve des contrôles officiels naturellement, et à cette altitude, la température était de moins 30 degrés.
Et finalement, ce jour-là, le Français Jean Boulet bat le record de 7400 mètres qui était détenu jusque-là par les Américains.
Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards. Moi, je m'en fiche, car mamie, c'est toi. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos dans son halo de nuages. Et au soleil là-haut qui nous tourne le dos, moi je crie bon voyage. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Flaque d'eau qui brille sous les jambes des filles, aux néons étincelants qui lancent dans la vie leurs postillons de pluie, je crie en rigolant. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche, j'ai mamie auprès de moi. Il peut pleuvoir sur les trottoirs, les grands boulevards, moi je m'en fiche car mamie c'est toi. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, jour et nuit tourneront en rond. Et aux gens qui s'en viennent et aux gens qui s'en vont, moi je crie à plein poumon. Y a plein d'espoir sur les trottoirs, les grands boulevards, et j'en suis riche, j'ai mamie auprès de moi. Y a plein d'espoir sur les trottoirs, les grands boulevards, et j'en suis riche car mamie c'est toi, c'est toi.
C'était Jacques Brel avec « Il peut pleuvoir », chanson de 1955.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1955, le doyen des Européens est un Français. Il se prénomme Séraphin, Séraphin Pruvot, et il fête ses 107 ans. À Siracourt, dans le Pas-de-Calais, la cérémonie en son honneur attire des curieux et beaucoup de journalistes. Europe numéro 1 a dépêché sur place Pierre Laforêt.
La messe qui est en train de se terminer n'est pas une messe comme les autres. Elle est donnée en l'honneur de l'homme le plus vieux d'Europe, Séraphin Pruvot, 107 ans. 107 ans, je ne sais pas si vous saisissez très bien ce chiffre. Personnellement, si j'atteignais cet âge, je vivrais encore en l'an 2032. Et vous, auditeur de 50 ans, vous verriez l'an 2012. Séraphin Pruvot est le doyen des Français. Il est né en 1848, je dis bien en 1848. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à Siracourt, Siracourt qui est une petite ville qui se trouve à plusieurs kilomètres d'Arras, eh bien à Siracourt, dans une très jolie petite église, l'abbé Martel a célébré la messe en son honneur. Face au maître-autel, je vois l'homme de 107 ans. Cet homme se lève et il va gagner la sortie tout doucement. Pendant toute la messe, il est resté assis très sagement. Seule sa tête dodelinait légèrement. Il est resté à regarder un peu tout le monde car il se tournait à droite, il se tournait à gauche. Des enfants essayaient de l'approcher, essayaient même de le toucher. Et on murmurait, mon Dieu qu'il est beau, mon Dieu qu'il est beau encore pour son âge. Eh bien oui, il est beau pour son âge. Il est cassé en deux, bien sûr, mais il est vêtu d'un complet noir. Il a une petite couronne de cheveux blancs bien coupée. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire et presque d'incompréhensible et d'incroyable de voir un homme de 107 ans. Enfin, j'aurais tout de même vu ça dans mon existence. Séraphin Benoît Joseph Pruvot a 107 ans. À présent, il va retourner chez lui et je vais essayer de l'y rejoindre. Me voici à présent dans la villa qui appartient à l'homme de 107 ans. Il vient de s'asseoir sur une chaise et toute la famille, c'est-à-dire des centaines de personnes, il faut bien le dire, passent devant lui et vont l'embrasser. Voici près de moi une jeune dame qui est avec un tout petit garçon. Comment s'appelle ce petit garçon ?
Régis.
Il s'appelle Régis. Et qu'est-ce qu'il est ? Il appartient à quelle génération ?
Cinquième génération.
Alors, monsieur Séraphin Pruvot, vous êtes content de cet événement ?
Oui.
Vous êtes allé à Paris déjà ?
Non, mais ils ont même perdu le poteau.
Vous allez peut-être aller à Paris ?
Non, mais ils ont même perdu le poteau.
Ah, c'est bien ça. Combien est-ce que vous avez de petits-enfants ?
Beaucoup. Trois.
Vous en avez trois ? Non, vous en avez beaucoup plus que ça.
Ah oui, des petits.
Des petits-enfants.
Je ne sais pas au juste.
Vous savez pas au juste. Il ne sait pas au juste combien il a de petits-enfants. Qu'est-ce qu'il va manger ? Il mange tout ?
N'importe quoi.
Il mange n'importe quoi ?
Bon, eh bien, c'est très bien, je vous laisse à table. Enfin, il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'on lui a remis la croix du combattant de 1870, il y a seulement 3 mois, à Syracuse. Bah, c'est-à-dire que vous avez attendu extrêmement longtemps. Vous avez attendu l'âge de 106 ans avant qu'on vous remette cette croix.
Riez un peu, Séraphin. On ne voulait pas dire au revoir, au revoir, Europe, nous remettons un.
Merci encore, Séraphin Pruvot. Merci, messieurs, et bravo à Séraphin Pruvot.
En cette année 1955, maintenant qu'ils sont équipés de Nagra, ces magnétophones à bandes qu'ils portent en bandoulière, les journalistes d'Europe numéro 1 se rendent régulièrement chez les Français. Alors après avoir fêté les 107 ans de Séraphin Pruvot dans le Pas-de-Calais, le journaliste Pierre Laforêt se rend dans la Marne chez les Cranet. Le jeune Alain Cranet, 15 ans, a disparu pendant 5 jours avant d'être retrouvé dans une armoire. Le journaliste d'Europe numéro 1 est sur place pour connaître le fin mot de cette histoire.
Alain Cranet est à ma droite, sa maman est devant moi, et à côté d'elle, il y a aussi un autre garçon qui doit être le frère d'Alain, n'est-ce pas, madame ?
Ah oui, c'est son frère.
Bien, eh bien, madame, vous allez nous raconter d'abord cette curieuse aventure, car c'en est une, puisque votre fils avait disparu et brusquement vous l'avez retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontons-nous ça.
Le lundi à midi, mon fils est rentré manger comme d'habitude. Et puis il est reparti pour ses cours vers 1h15, 1h20. Le soir, vers 8h moins 25, voyant parvenir, on voyait la petite demander à un de ses camarades ce qu'il en était. Alors là, il nous a répondu, Alain n'est pas allé au cours.
Si Alain n'est pas allé en cours cet après-midi-là, c'est qu'il avait une bonne raison. Et le journaliste d'Europe numéro 1 veut l'entendre de sa bouche.
Bien, Alain, vous êtes en train de vous gratter la tête, vous portez un petit chandail et vous êtes près de la machine à coudre de votre maman. Vous allez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qui vous a pris d'aller vous mettre dans une armoire.
Oh, j'avais pas été en colle la veille.
Vous n'aviez pas été en colle, c'est-à-dire que vous êtes au lycée. À quel lycée êtes-vous ?
Je suis au centre d'apprentissage.
Vous êtes au centre d'apprentissage. Vous apprenez quoi ?
Le tournage.
Le tournage. Et vous aviez été puni. Alors, vous allez leur raconter, cette fois, vous, exactement ce qui s'est passé. Écoutez, nous allons fermer la radio. Qu'est-ce que c'est le poste qu'on entend en ce moment-là ?
C'est Europe numéro 1.
Bien, c'est Europe numéro 1. Alors, nous allons fermer Europe numéro 1, puisque nous sommes à Europe numéro 1 actuellement. Alors, racontez-nous ça un petit peu.
Quand je suis parti de chez moi à midi, je suis descendu jusqu'à la chapelle plus bas. Je suis remonté par ici plus tard, un peu plus tard.
Lorsque le jeune Alain arrive près de chez lui, il décide au dernier moment d'aller se cacher dans un appartement à proximité, dans une armoire.
Et là, vous avez ouvert l'armoire de ces gens. C'était chez qui, ça, madame ?
Ça, c'est la personne. Le logement est vide et j'ai les clés de l'appartement. Mmh. Et alors, Alain avait pris les clés à mon insu, avait ouvert la porte et naturellement, une fois rentré dans l'appartement, il repousse la porte, il se trouve enfermé dans l'appartement.
Parce qu'il faut que je vous donne aussi un petit détail. Le jeune Alain, qui a 15 ans, est un garçon qui mesure certainement 1m80 et qui me dépasse presque d'une tête. Et ce jeune garçon s'est enfermé dans cette armoire. C'était une grande armoire ou une petite armoire, madame ?
Une armoire penderie.
Et comme Alain veut faire croire à un enlèvement, il a décidé de s'attacher les poignets avant de se cacher dans l'armoire.
Le chien policier, car il y a eu un chien policier qu'on a mis en branle pour retrouver le jeune Alain.
À chercher et ça restait toujours sur le palier. Alors de là, on a déduit qu'il fallait entrer dans l'appartement.
Bon, je crois que, d'après ce que j'ai entendu dire dans la maison, que vous aviez les mains ligotées. C'est pas vrai, ça, non ?
C'est une mise en scène à Alain, ça.
Comment ? Qu'est-ce que vous dites, madame ?
C'est une mise en scène à Alain, ça.
C'est une mise en scène à Alain.
Croyant naturellement qu'on allait couper dans le panneau qu'il avait été entraîné là, mais vous pensez que ça n'a pas pris.
Et vous étiez là dans cette armoire depuis combien de temps ?
Je venais d'y aller.
Quand il a vu qu'on l'avait découvert, qu'il s'est caché.
Pardon, madame, pardon.
C'est quand il a vu qu'il était découvert, alors qu'il s'est caché dans l'armoire.
Et cela faisait combien de jours déjà ?
Du lundi midi au mercredi par 7 midi, à peu près.
Alain, de quoi vous nourrissiez-vous lorsque vous étiez dans cette armoire ?
De rien du tout.
De rien du tout ? Mais alors vous avez maigri.
Il n'a pas été enfermé dans l'armoire tout le temps, hein, puisqu'il pouvait naviguer comme il voulait dans l'appartement. Il a même écouté la radio.
Ah oui, et qu'est-ce que vous écoutiez comme radio ?
J'écoutais
Europe numéro 1.
Et voilà, et naturellement, il écoutait Europe numéro 1, bien entendu. Bon, eh bien, écoutez, Alain, puisque vous écoutiez Europe numéro 1, nous ne pouvons pas vous en vouloir, nous ne pouvons pas vous en vouloir de vous être enfermé dans cette armoire, et nous sommes sûrs que maintenant, vous allez redevenir un petit garçon très sage. Quand je dis un petit garçon, je m'entends un grand garçon très sage, puisque vous allez retourner demain, sans doute, à votre centre d'apprentissage.
Je pense que lundi, il y retournera. Après-midi, on va le faire visiter au docteur, on verra ce qu'il va nous dire.
Bon, eh bien, écoutez, alors nous souhaitons que le docteur dise à Alain que la prochaine fois, il choisisse non pas une armoire pour s'enfermer, mais une salle studieuse d'école et qu'il revienne à de bons sentiments vis-à-vis de sa famille, car on n'a pas idée d'aller s'enfermer dans une armoire, même pour écouter Europe numéro 1. Merci, madame.
Merci, monsieur.
Merci, Alain.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En ce mois de juillet 1955, Roger Thibault est un héros. À 12 ans, il a sauvé une petite fille de la noyade.
Il est l'heure de la récréation au groupe Pasteur à Melun, l'école communale, et j'ai en face de moi un petit garçon qui s'appelle Roger Thibault, qui est âgé de... Quel âge tu as, Roger ?
12 ans.
Qui est âgé de 12 ans et qui, mercredi soir, était le héros d'une aventure qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves s'il n'avait été là. Eh bien, tu vas me raconter exactement, Roger, comment ça s'est passé.
Je regardais Jean-Pierre et son cousin Gérard Rongier, qui pêchaient.
Ce sont des petits garçons qui ont quel âge?
Oui, il y en a un qui a 12 ans, puis l'autre 9 ans, 10 ans.
Oui, ils étaient en train de pêcher comme ça.
Ils étaient en train de pêcher sur une barque qui n'était pas à eux. Et la petite, moi j'étais sur les marches encore, le long de la Seine, mais sur les marches. Et puis, moi je regardais la petite, puis d'un seul coup elle me dit, regarde, je montais dans le bateau, puis il y avait, elle a buté dans une pierre, et puis au moment qu'elle disait bas, le taux il était en l'eau, parce qu'elle avait encore la bouche ouverte.
Alors cette petite fille, elle s'appelle comment?
Dominique Rongier.
Dominique Rongier, alors c'était oui. La petite sœur de ces deux garçons qui étaient sur la barque.
Oui, c'est ça, oui. Alors moi j'ai mis le... comme j'avais mes bottes, j'ai mis le pied dans l'eau, et puis je l'ai attrapé par ses habits, en vitesse.
Et quelle tête elle faisait la petite fille? Qu'est-ce qu'elle disait? Elle commençait à se noyer ou quoi?
Ben, elle est restée 3 ou 4 secondes dans l'eau. Alors moi j'ai fait vite à tremper mon pied dedans, puis je l'ai retiré par son gilet. Et après, elle a remonté en pleurant chez elle, alors je l'ai remontée.
Ah bon, parce qu'elle habite tout près du lieu de l'accident.
On traverse la route et puis on l'arrivait.
Ah bon?
Juste son père, il sortait de chez elle pour venir voir. Alors j'ai dit comment que l'histoire s'était passée. Et puis il m'a dit merci.
Et ce papa avait toutes les raisons de remercier Roger. Il sait tout juste nager.
Mais dis-moi, Roger, est-ce que tu sais nager?
Oui, un peu.
Un peu? Pas beaucoup?
Oh non, pas tellement.
Tu n'as pas eu peur, là, comme ça, de rentrer dans l'eau?
Non, j'avais mes bottes, je suis rentré pas bien loin.
Mais enfin, tu savais que l'eau n'était pas profonde à cet endroit-là?
Oui.
Et qu'est-ce que tu aurais fait si la petite fille avait disparu comme ça sous tes yeux? Qu'est-ce que tu aurais plongé?
Oui, j'aurais plongé comme je sais faire des sous-l'eau.
Ah bon?
Alors j'aurais plongé.
Bah, dis donc, Roger, tu es un petit garçon très courageux, c'est très bien ça. Et la petite fille, elle a quel âge?
4 ans.
Je te félicite et puis j'espère que s'il arrive encore un accident, eh bien tu seras encore là pour sauver encore une petite fille, un petit garçon, enfin tous les gens en danger. Mais dis-moi, Roger, est-ce que tu penses être récompensé pour ton acte de courage?
Oui, je voudrais bien. Il m'a dit que j'aurais peut-être une médaille.
Ah bon, parce que le père de la petite fille que tu as sauvée est sergent de ville, hein?
Oui.
C'est ça. Et il t'a dit que tu rêves d'être une médaille?
Oui.
Eh bien, c'est bien. Au moins, tu auras, malgré ton jeune âge, tu auras déjà une médaille de sauvetage.
En cette année 1955, le petit Roger n'est pas le seul à mériter une médaille. La petite Dominique, qui n'est guère plus âgée, a empêché presque elle seule un cambriolage. Pour son action héroïque, elle a aussi droit à la visite d'un journaliste Europe numéro 1.
Dominique Deluzé, il était quelle heure d'abord?
5h30.
5h30, et qu'est-ce que tu faisais à la maison?
Je lisais ma Lisette.
Lisette, c'est un journal, tu ne faisais pas tes devoirs?
Non, je jouais.
Ils étaient finis?
Oui.
Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
À ce moment-là, j'entendais des bruits, boum boum boum, je ne savais pas ce que c'était. Alors, j'ai regardé à la fenêtre, c'était rien, quoi, je voyais rien. Puis au bout d'un moment, je regardais à la fenêtre, tout d'un coup je vois un homme, il était debout. Il était sur le rebord de la fenêtre, il était grand, alors il m'a fait peur, j'ai eu peur, alors à ce moment-là, je me suis cachée derrière mon journal, bon, et puis j'ai regardé, je le distinguais, j'ai un coup d'œil sur lui pour voir ce qu'il allait faire, pour voir, parce que j'avais peur qu'il casse les carreaux. La cuisine, alors, je tremblais de tous mes membres, j'étais impressionnée, je savais pas qui c'était, alors je me disais vivement que papa arrive, mais je me disais en moi-même que je vais aller prévenir l'appartement, parce que si je me trouve toute seule qui rentre dans la pièce et puis que je sois je me trouvais mal. Alors, j'ai appelé l'appartement, quoi. J'ai appelé. J'ai fait. Oui, j'ai quitté ma chaussure, mes chaussures.
Et pourquoi tu as quitté tes chaussures ?
Pour ne pas faire de bruit.
La petite Dominique réalise qu'elle ne pourra rien faire face à cet intrus. Alors, elle donne l'alerte dans l'immeuble.
Alors, j'ai ouvert tout doucement la porte de la cuisine. Puis après, j'ai ouvert la porte de l'entrée. Et là, j'ai fait claquer la porte. Je ne sais pas s'il m'a entendu, mais il n'a pas dû. Alors après, je suis descendue. J'ai été chez ma tante. Elle n'était pas là. Je n'ai pas attendu qu'elle me réponde. Je suis descendue chez la voisine d'à côté. Alors là, elle m'a répondu. Je me suis mise à pleurer en rentrant. Alors, elle croyait que j'étais folle. Elle disait, mais ça va plus.
Dominique n'est pas folle. Et la voisine va vite s'en apercevoir, car elle aussi se retrouve nez à nez avec cet homme.
Alors elle a ouvert la fenêtre et puis elle a vu un homme qui était assis sur le rebord du cabinet. Alors elle lui demande « Qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Alors il dit « Je prends le frais. » Alors elle a refermé la porte et puis croyant qu'il était armé, elle n'a pas voulu sortir. Alors elle appelait dehors les gendarmes et tout, et papa est arrivé. Alors à ce moment-là, elle est montée et puis il a vu l'homme qui était au milieu de la porte de la chambre. Alors il n'a pas attendu, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Alors l'autre n'a pas répondu, alors il lui a envoyé un coup de poing sous le manteau, et il s'est étalé sur le lit. Alors après, il a vite couru, il a fermé la porte à clé, à double tour, et puis il a fait mettre au poste ma tante, et puis il lui a dit « Regarde si les agents arrivent et tout, et s'ils ne se sauvent pas. » Alors, les agents sont arrivés, le charcutier montait avec un couteau à la main, des cordes à canchon pour les ficeler. Il avait des cordes pour mettre les menottes. Alors, il l'a ficelé. Et puis après, ils sont rentrés dans l'appartement avec les gendarmes. Alors, voyant ça, le monsieur, il a eu peur, il est parti. Il a voulu ouvrir la fenêtre de la chambre. Mais voyant qu'il y avait des gens en bas dans la cour, il a eu peur. Il n'a pas pu se sauver. Alors il est allé dans la salle à manger, il a renversé des choses. Puis il a ouvert la fenêtre, il s'est jeté dans le vide, il s'est rattrapé par le bas de la fenêtre. Puis voyant qu'il était assez grand, il s'est mis à tapager dans la fenêtre du troisième étage, chez la locataire. Et moi j'y étais, j'avais peur. Alors la fille du locataire, elle disait « Maman, les fenêtres sont cassées, il est là ». Alors moi, comme la dame m'avait prêté de grands chaussons, je courais avec les autres. J'ai perdu mes chaussures en route, je suis dérangolée dans les escaliers.
Si la petite Dominique rigole en racontant son histoire, c'est parce qu'elle s'est bien terminée. Enfin, pas pour tout le monde.
Et puis, on a arrêté, et papa est descendu avec le policier, on l'a arrêté dans la cuisine. Alors on l'a fouillé, il avait quelques affaires, puis après on l'a emmené au commissariat.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1955.
I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still.
Les Platters avec The Great Pretender, immense tube de ce groupe en 1955.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
À l'hiver 1955, c'est la première fois qu'Europe numéro 1, qui vient juste d'être créée, célèbre Noël. Alors le 23 décembre, le journaliste Gilbert Lauzin arpente les rues de la capitale, magnétophone en bandoulière. Et il croise la route d'enfants en pleine frénésie d'achat.
Ah, l'article à sort, vous voyez fouiller. Il a pas son petit cadeau, vous voyez.
Oui, des petits cadeaux, bien sûr, chacun peut en trouver, car tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des jouets à 150 000 francs, et les enfants non plus. Non. Qu'est-ce que tu as acheté, toi, à tes parents pour Noël?
Oula!
Hein?
Un linoléum,
oui.
Et puis un couvre-lit.
Mais tu es riche, dis donc.
Ah oui?
Tu as payé ça cher?
En tout, 3 000 francs, à peu près.
3 000 francs?
Oui.
Et toi, t'as de l'argent?
Moi, non, je suis fauché.
T'es fauché, toi? Ah, qu'est-ce que tu vas faire?
Ben, je vais tâcher de voir mes parents.
Ah, tu vas essayer d'acheter quelque chose de bon marché, non?
Oh oui.
Tu as une idée?
Bah oui.
Quoi?
Une cafetière.
Il n'est pas si difficile que cela de trouver des cadeaux bon marché. Et j'ai suivi un petit garçon qui a une 12-13 ans à l'intérieur d'un grand magasin de la rive droite. Et ce petit garçon s'est approché, s'est arrêté maintenant devant un comptoir de livres d'art. Mais je ne pense pas quand même qu'il va arriver avec 500 francs à obtenir ce livre. Comment t'appelles-tu?
Alain Lano.
Alain. Bon, eh bien Alain, tu as 500 francs dans la main, j'imagine que c'est pour faire un cadeau. À qui? À ton papa ou à ta maman?
Non.
À ta maman. Et qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime les livres comme ça?
Oui, elle aime beaucoup ça.
Mais disons, tu as l'impression qu'avec 500 francs, tu vas réussir à trouver quelque chose?
Oh, peut-être.
Et qu'est-ce qui te plairait dans ces livres? Celui-là?
Oui, celui-là. Le prix, s'il vous plaît, madame.
410 francs, mon petit.
410 francs? Bah, ça va, alors, tu le prends?
Oui, monsieur.
Eh bien, voilà, encore un petit cadeau qui fera une heureuse.
Pendant ce temps-là, un autre journaliste qui s'appelle André Marin est envoyé en reportage au Salon du Jouet. Et parmi les enfants, ils croisent Dominique et Philippe Rimbourg, les fils de Bourville.
Et puis j'ai aussi rencontré Nounouche. Bonjour Nounouche.
Non.
Tu veux pas me parler?
Non.
Je sais que Nounouche s'appelle Violaine, sa maman s'appelle Marie-Josée. Avec... Oh, bon, tu es pas gentil Nounouche, tu veux même pas me dire un petit bonjour?
Non.
J'ai quitté Nounouche et j'ai trouvé un peu plus loin deux grands garçons. Comment t'appelles-tu mon grand?
Dominique.
Dominique comment?
Rimbourg.
Oh, Dominique Rimbourg. Et toi, mon chéri?
Philippe Rimbourg.
Philippe Rimbourg. Alors, il serait peut-être bon de dire que Dominique et Philippe Rimbourg sont les fils, vous l'aviez déjà deviné, vous le savez, de notre grand ami, de cet artiste que vous aimez tous, qui s'appelle Bourville. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu voudrais que t'apporte le Père Noël, Dominique?
Une ferme.
Parce que papa a une ferme là-bas, dans son pays. Hein? Est-ce que tu y vas quelquefois?
Oui.
Tu y vas? Et alors tu aimes bien jouer avec les animaux? Avec quoi? Les petits cochons ou quoi?
Il n'y a pas de cochons.
Qu'est-ce qu'il y a?
C'est pas une ferme, c'est une maison.
Ah, c'est une
Et
maison.
Puis, alors, à côté, il y a une ferme.
Oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que le Père Noël t'apporte une ferme?
Oui.
Est-ce que tu voudrais jouer avec des animaux?
Oui.
Est-ce que tu penses que tu vas l'avoir?
Oui.
Je suis persuadé que papa Bourville se fera une joie de t'offrir ça. Merci.
Dans les allées du salon, il croise également la fille du chanteur Eddie Constantine. Mais à la différence des enfants de Bourville, elle ne sait pas quoi demander au Père Noël. Heureusement, le journaliste est là pour lui souffler quelques idées.
Et voici une nouvelle visiteuse, une très très grande jeune fille cette fois. C'est Tania Constantine, la fille d'Eddie Constantine. Quel âge avez-vous, Tania?
J'ai 12 ans.
Vous avez déjà 12 ans. Alors évidemment, vous ne croyez plus au Père Noël. Il faut le dire très doucement. Hein. Vous n'y croyez plus.
Non.
Mais parmi tous les jojos que vous avez vus ici, quels sont ceux qui vous feraient envie?
Oh, je ne sais pas exactement.
Le petit aspirateur électrique qui marche vraiment, la petite machine
ça,
à laver.
Ça, serait bien.
Ça, ce serait joli, n'est-ce pas? Pensez-y. Écoutez, dites-le à Eddie Constantine. Je suis persuadé qu'il se laissera tenter.
À l'occasion de ce Noël 1955, le Père Noël a le téléphone. Et pour le contacter, inutile de connaître son numéro.
Bon, alors, tu y es? Alors, faut qu'on fasse le numéro du Père Noël, alors on va faire le ciel. C-I-E-L. Allez, tu sonnes. Oh, ah, bien, tu l'as seulement entendu. Allez, le ciel. Allez.
Le ciel.
Allô?
Allô, Père Noël. Je te remercie beaucoup. C'est très gentil. Je serai bien seul.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Et quand le Noël 1955 est passé, il s'agit maintenant de célébrer le nouvel an. Et pour savoir ce que réserve l'année à venir, le journaliste Pierre Laforêt sollicite une voyante.
Allô, je suis chez Madame Mila, médium.
Oui, monsieur.
Est-ce que Madame Mila est là, s'il vous plaît?
C'est moi-même, monsieur.
Bonjour, madame, à l'appareil, c'est Pierre Laforêt de Radio Europe numéro 1.
Oui, monsieur.
Madame, j'ai vu dans un journal une petite annonce. Vous ne pourriez pas nous dire en deux mots ce que sera 1956?
Vous savez, 1956, ce sera une très mauvaise année au point de vue...
Ah oui.
Extérieur.
Ah, ce sera une mauvaise année au point de vue extérieur?
Oui, oui.
Et qu'est-ce que vous voyez au point de vue intérieur?
Au point de vue intérieur, monsieur, il y aura beaucoup de troubles politiques.
Ah bon?
Il y aura les morts de grandes personnalités.
Oui.
Et beaucoup de morts de personnalités qui affecteront beaucoup le pays.
Ah bien.
Non. Pour les particuliers, l'année sera meilleure.
Ah.
Pour les particuliers, tout ce qui atteint les familles en particulier,
ah bon.
L'année sera favorable.
Ah bon, bah, ça, c'est bien.
Évidemment,
ça.
Il y aura des catastrophes qu'on ne peut pas éviter, mais enfin...
Oui. Et quelle sorte de catastrophes?
Des décès, des catastrophes de...
Oui. Des tremblements de terre, peut-être, des choses comme ça. Oui, des gros orages.
Des incendies, des raz de marée.
Oui, des raz de marée.
Des naufrages.
Des naufrages.
Des noyades.
Des noyades.
Oui, des accidents de cette sorte. Mais autrement, au point de vue particulier, l'année sera meilleure.
Mais alors, dans l'ensemble, alors, pour les familles, année meilleure.
Année meilleure.
Enfin, en résumé, bonne année ou mauvaise année?
Année très difficile avec beaucoup de difficultés dans tous les sens.
Donc, selon vous, Madame Mila, année très difficile, avec beaucoup de difficultés. Mais on s'en sortira quand même.
Ah oui, oui.
On
oui.
s'en sortira. Donc, oui. Année pleine d'espoir quand même.
Année pleine d'espoir, oui.
Bon, vous êtes très gentille, Madame Mila. Je m'excuse de vous avoir importunée pendant que vous étiez en train de consulter.
Il n'y a pas de problème, monsieur.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1955.
Little Richard et son Tutti Frutti en 1955. Merci à Valérie Nizan, Julien Pichenet, Guillaume Vassot et François Desmoulins. Ainsi se termine notre série en 5 épisodes consacrés à l'année 1955. Vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.